qui finalement a réussi la preuve, ou bien est-ce que c'est la faiblesse intrinsèque de nos industries, même si vous avez parlé d'Ericsson, de nos industries télécommunications européennes?
Je pense qu'effectivement, il y a deux éléments. C'est une logique de la mondialisation qui a amené ça. C'est clair que l'imbrication des uns des autres, c'est une conséquence de la mondialisation en cours depuis déjà une vingtaine d'années, et l'entrée de la Chine dans le jeu, bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement l'absence de la capacité stratégique de certains pays européens ou peut-être de l'Europe.
La France est inclue dans ces certains pays européens?
Oui, je pense effectivement.
L'absence de vision.
Il y a un problème effectivement. Si les Chinois en sont arrivés avec Huawei, c'est effectivement ils ont une certaine vision, ouais. Ils ont des objectifs. Et après, ils ont mis les moyens. On peut toujours ensuite dire ah ça c'est.
De gros moyens. Hein.
Des gros moyens, mais ouais. Bien sûr. Mais je veux dire bon, en France aussi, je veux dire si je me rappelle bien, sous De Gaulle, sous la Ve République, on a eu des grands projets avec des objectifs et on a mis tous les moyens, tout le monde dessus. Donc on avait une économie un mix d'ailleurs. On a aussi des liens à nos dirigeants des entreprises de télécom. Je veux dire, M. Stéphane Richard, où il était avant, hein, vous vous souvenez.
Donc, pour les gens qui auraient oublié.
Bah, le cabinet de Mme Lagarde et Bercy.
Voilà, c'est ça. Je veux dire que vous avez des liens entre un gouvernement et quelqu'un qui a fait quelque chose. Et le fait d'avoir été colonel, finalement, je veux dire, je ne vois pas ce que ça va faire là-dedans. Puisque De Gaulle était colonel, allez, dans un autre registre, même Pétain était colonel avant.
On pourrait considérer que la structure du pouvoir français.
Ça ne veut rien dire.
On pourrait considérer que la structure du pouvoir français.
Ça nous mènerait trop loin.
La caricature et de l'image, etc. Je veux dire, c'est pas ça qui est, ça constitue pas une preuve d'un lien entre Huawei et l'État chinois au point de dire que tout ce qu'ils font, effectivement, est voulu par le gouvernement chinois.
Alors, Nadia, évoquons la domination technologique chinoise dans l'intelligence artificielle.
Oui, et c'est l'ONU qui vient de confirmer ce que vous êtes en train de dire et qui confirme en effet que l'Europe est à la traîne en ce qui concerne les nouvelles technologies. Elle l'a fait via son agent spécialisé, c'est l'Organisation de la propriété intellectuelle, qui a rendu public un rapport qui est très éclairant, qui révèle d'abord le boom des inventions liées à l'intelligence artificielle. Depuis 2013, les demandes de brevets ont littéralement explosé. On en est aujourd'hui à 340 000. Pour l'année 2017, on en comptait plus de 55 000. Et c'est surtout la répartition géographique de ces demandes de brevets qui est intéressante. Quand on regarde d'où partent ces demandes, d'abord, ce sont essentiellement des entreprises. 26 des 30 principaux déposants sont des sociétés. Elles sont presque toutes américaines. On y retrouve dans cet ordre-là IBM et Microsoft. Suivent quelques conglomérats japonais et coréens comme Toshiba et Samsung. La Chine n'est pas bien loin parce qu'elle est surreprésentée dans les demandes de brevets qui émanent d'institutions publiques. Les universités, par exemple, sont très présentes dans ce classement-là. Donc clairement, ce qu'on peut dire, c'est que les Américains et les Chinois sont les plus dynamiques dans le domaine et l'Europe... elle est plutôt loin derrière. On a trois entreprises européennes, qui figurent dans ce top 30 des demandes de brevets. Seuls deux centres de recherche européens figurent dans le classement du côté des institutions. Même le CNRS, qui est bien connu, et qui figure par ailleurs dans le top des publications scientifiques sur l'intelligence artificielle, il ne figure pas du tout dans ce fameux top 30. Et pourtant, on se souvient qu'en décembre dernier, Bruxelles a dévoilé un plan à 20 milliards d'euros pour que l'Union européenne reste, ou plutôt devienne compétitive à Malguiton. Est-ce que c'est trop tard, ou est-ce que quand on voit ce tableau-là, on se dit qu'il y a effectivement possibilité pour l'Union européenne de grimper dans les échelons?
Alors, est-ce que c'est trop tard? Ça, j'en sais rien. Je n'aime pas trop faire des prédictions, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des progrès de l'intelligence artificielle repose sur des technologies d'exploitation de très très grands volumes de données. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage dit profond, et ça repose sur le big data. Donc, qui a une longueur d'avance en matière de big data? De très grandes entreprises américaines, des grands groupes de la Silicon Valley, je pense à Google, par exemple, qui est très bon en IA, ou à Facebook, et alors effectivement la Chine, parce qu'il se trouve qu'en matière de protection des données personnelles, on ne peut pas dire que le cadre soit particulièrement contraignant. Donc, d'une certaine manière, c'est la question qui se pose aussi, c'est est-ce que l'Europe va être capable de faire de l'intelligence artificielle, peut-être pas forcément sur le même type de technologie, parce qu'effectivement, comment concilier le big data et la protection des données personnelles, c'est quand même une vraie question. Et pour
comment
le coup,
être éthique
en matière de protection des données personnelles, l'Europe a une longueur d'avance.
Claude, Pierre Grosser.
Est-ce que nous devons nous faire l'idée, Pierre Grosser, que notre moment à nous, Européens, est en train d'être passé? Nous avions l'avance technologique, nous a permis de dominer le monde dans nos colonies, puis c'était nos cousins américains, c'était les mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui se termine et nous sommes en train de le vivre? Et nos protestations sont juste des protestations d'arrière-garde?
Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on a rappelé De Gaulle et les projets de champions nationaux pour jouer dans la cour des grands. Et en fait, on a essayé à l'échelle européenne de créer des champions européens. On a poussé à cela. Et en fait, l'Europe s'est pas construite de cette manière-là, notamment sous influence anglo-saxonne et des théories de la compétitivité. Et donc, on n'a pas créé des grands champions européens. Je ne sais pas s'il aurait fallu le faire, mais en tout cas, on a moins de champions européens, sauf bon, Airbus, qui est un peu un symbole. Et donc, on n'a pas encore d'Airbus de la haute technologie de ce type-là.
Mais si la haute technologie est l'arme absolue du monde qui se crée devant nous, nous en sommes exclus.
Alors, on n'en est pas exclus, mais on est plutôt à la traîne.
On est des petits joueurs.
Je trouve ce qui est vraiment fascinant, c'est quand on se reporte un peu en arrière. Quand on se souvient des années 90, le grand discours c'était que nous, on était plus intelligents, les Européens, les Américains, et qu'on allait donner des ordres aux millions de travailleurs chinois, dont le coût de travail était extrêmement faible. Et finalement, qui est-ce qui allait tirer les bénéfices de la mondialisation? C'est nous. Et ça, c'était théorisé, c'était expliqué, ça justifiait très largement qu'on sera les gagnants de la mondialisation. Et le rattrapage technologique est maintenant, d'une certaine façon, le fait que les Chinois nous dépassent dans un certain nombre de domaines. Et on voit le Pentagone qui s'inquiète énormément de ces progrès technologiques. Ça s'est fait en un temps record dans l'histoire du monde. Et ça, c'est une grande inquiétude, évidemment, puisque aussi la technologie civile a des implications militaire. Et aujourd'hui, je le rappelle, ceux qui s'inquiètent aux États-Unis, ce sont les grandes entreprises technologiques, mais ce sont aussi tous les services de renseignement et enfin le Pentagone, qui a fait encore un rapport il y a quelques semaines, très très inquiétant.
A raison, puisque la cybersécurité, c'est une menace.
Disant même que pour toutes les armes, les Chinois étaient en train d'avoir le leadership sur un certain nombre d'armements.
Amaël Guiton, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, le mot éthique. On vient d'apprendre que les Chinois ont réussi le clonage de macaques génétiquement modifiés. Les questions autour du transhumanisme, la question éthique, toutes ces questions-là n'ont pas été soulevées. Être envisagées.
Oui, et pour le coup, c'est peut-être là aussi que l'Europe a un rôle à jouer.
Lequel ?
Parce que notamment sur la question de la régulation de la technologie. On voit bien qu'il y a eu longtemps une hyper-domination des États-Unis sur l'Internet et sur le numérique de manière générale. On voit émerger la Chine comme un contre-modèle. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je crois que quelques jours avant que le forum sur la gouvernance de l'Internet se tienne à Paris, il y avait un équivalent qui se tenait en Chine au même moment. Donc on voit qu'ils veulent promouvoir aussi un autre modèle, une autre vision.
Et à nous de réguler.
Il y a probablement une voie européenne à tracer pour une technologie qui soit compatible avec les droits fondamentaux, avec la protection des libertés, avec l'éthique, etc.
Merci à tous les trois.